Bonjour et bienvenue dans l'entrepreneuriat c'est du sport, le premier podcast qui mêle sport et entrepreneuriat. Je m'appelle Eric Allard et avec mes invités, nous allons parler des liens qui existent entre ces deux mondes. Car entreprendre, c'est au sens large du terme, vouloir mener à bien un projet, que ce soit dans le sport ou dans le business. En parlant de sport, je ferai le parallèle avec ce que vivent au quotidien mes invités, qu'ils soient dirigeants, managers ou entrepreneurs. Nous évoquerons les valeurs communes à ces deux univers, comme par exemple l'esprit d'équipe, la confiance en soi, la résilience ou encore la vision à long terme nécessaire à l'accomplissement des objectifs et à l'entretien de la motivation. Et les expériences partagées par mes invités vous aideront sûrement dans l'atteinte de vos propres projets. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité aujourd'hui, Anne Boucaud. Bonjour Anne.
Salut Eric.
Merci de nous avoir rejoint pour cet épisode. On va parler d'immobilier puisque tu travailles dans l'immobilier. Tu es à la tête de deux agences en région parisienne. Quand on lit un peu sur Internet ce que tu fais, jeune maman, jeune dynamique, tu as toujours été dans l'immobilier. Et moi, ça me fascine parce que dès ton âge, tout de suite, tu as été dans ce milieu-là. Et c'est pas quelque chose que je pensais qu'on pouvait faire dès qu'on sort, dès qu'on est jeune et tout ça. Je pensais qu'il fallait un petit peu d'expérience, mais tu prouves le contraire. Et j'ai très envie d'échanger avec toi sur ce parcours déjà que tu as dans l'immobilier, puis les liens qu'on peut faire avec le sport. Eh bien, pour nos éditeurs, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion pour l'immobilier et comment tu as pu grandir dans cet univers ?
Oui, merci Eric pour me donner la parole. Donc, pour me présenter brièvement, donc je suis Anne Boucaud, j'ai 36 ans. J'ai commencé effectivement l'immobilier en 2006. Donc, je suis vraiment, comme je dis toujours, un produit pur de l'immobilier. Ça a toujours été une évidence, c'est-à-dire que moi, assez jeune, donc pour la petite histoire, ma maman est commerciale, enfin maintenant retraitée, mais commerciale, et mon papa était conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je pense que j'avais déjà un petit peu ça dans le sang. J'ai toujours aimé le commerce. Quand j'allais à des goûters d'anniversaire chez des copines, quand je revenais, je racontais à ma mère comment était faite la maison, comment ils avaient organisé les choses. Enfin, j'ai toujours aimé ça. J'épluchais les petites annonces immobilières. Tu sais, à l'époque, il y avait des petites revues à la boulangerie, etc. J'ai toujours suivi ça de près, on va dire. Et donc, assez naturellement, à 18 ans, je me suis tournée vers des études d'immobilier. Donc, parcours assez classique, un BTS profession immobilière que j'ai fait en alternance. À mes 18 ans, donc, je bossais dans une agence immobilière de quartier qui faisait des biens haut de gamme, enfin, spécialisée plutôt sur les biens haut de gamme résidentiels. Donc, c'était hyper intéressant pour moi parce que dès 18-19 ans, je voyais déjà des biens qualitatifs, très bien placés, avec plein de choses hyper positives qui m'ont appris énormément. J'ai évolué dans cet environnement pendant 2 ans. Après, j'ai rejoint une agence pendant 10 ans où j'ai été salariée, donc négociatrice. Très rapidement, j'ai atteint des beaux chiffres d'affaires. Donc, j'étais assez... Déjà, je me challengeais pas mal. Donc, j'envoyais à peu près entre 30 et 35 ventes à l'année, déjà quand je commençais. Donc, c'était déjà un beau parcours. Et très rapidement, j'ai gravi un peu, on va dire, les échelons. Donc, je travaillais dans une agence de quartier. Ce qui était bien, c'est que j'étais complètement autonome puisque l'agence faisait du syndic, de la gestion locative, de la location et de la vente. Et moi, je m'occupais seule du département vente. Donc, je me suis débrouillée, on va dire, un peu toute seule, même si j'avais mon bagage et commercial et juridique. Mais ça a été une expérience très, très enrichissante parce que... j'ai pu toute seule apprendre à faire des estimations, à faire un certain nombre de choses. Mais au fur et à mesure, j'ai forcément acquis beaucoup de connaissances et je me suis dirigée au fur et à mesure vers des chiffres d'affaires conséquents. Et surtout, je me suis dit à un moment donné, tu as envie de quoi en fait ? Une fois que tu travailles 100% mandat exclusif, que... tu as des clients qui te recommandent, que tu avances vers tes modes de prospection, que tu fais de la publicité dans la ville, que on voit des panneaux un peu partout qui fleurissent avec le nom de ton agence. Je me suis dit, OK, c'est quoi la next step? Donc, j'avais un peu moins de 30 ans. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, Eric, de me dire, j'ai eu un enfant en fait, et je me suis dit, à mon retour de congé maternité, ça sera peut-être le bon moment. J'ai eu cette opportunité-là parce que j'ai une expérience professionnelle qui a été un petit peu compliquée avec des échanges compliqués avec mon patron pendant mon congé maternité. Donc, je me suis dit, à un moment donné, c'est peut-être le bon moment.
Et donc, tu as franchi le pas.
Ouais, et donc j'ai franchi le pas. Donc j'étais toute jeune maman, donc j'avais 31 ans. Mon mari m'a beaucoup poussée au départ parce que moi, j'avais peur en fait, tout bonnement. Je me disais, c'est cool, j'ai une expérience métier, j'ai encore une fois un certain nombre de connaissances, de contacts. Je restais sur la même commune, donc tu peux te dire que le risque était limité. Mais jeune maman, je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment? Tu sais, on se dit tout ça. Est-ce qu'il y a un bon moment finalement? Et puis mon mari m'a dit, mais Anne, au pire, tu retrouveras un autre boulot. Fonce, c'est le moment. J'avais la chance d'avoir des contacts, des confrères qui me voulaient dans leur agence pour être responsable d'agence. Tu vois, donc j'avais des belles opportunités. Mais je me suis dit, OK, go, c'est le moment. J'ai eu la chance d'être très bien entourée. Donc, justement, avec le soutien de mon mari, parce que c'est vrai, comme on dit, une aventure entrepreneuriale, quand tu as le soutien de tes proches, franchement, ça aide. Donc, il m'a soutenue dès le début en me disant, Banco, vas-y, je suis derrière. D'ailleurs, il faisait énormément de choses aussi pour moi, parce qu'il a créé le logo. Enfin, il a fait plein, plein de choses aussi pour m'aider au départ, en plus de son job. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. Donc, j'avais ma petite, elle avait 4 mois. Donc, ça a été assez challenging, hein, parce qu'on va pas se mentir, au début, entre les nuits courtes, l'allaitement, toutes les problématiques d'une jeune maman, c'était un vaste sujet, mais je me suis régalée, Eric. Vraiment, ça a été une révélation, en fait, pour moi. Parce que tu crées tout à ton image, en fait. Tu vas de la simple création du nom de ta boîte à ton logo, à ton slogan, à tout l'ADN de ta boîte, en fait. Donc, tu vas chercher aussi au plus profond de toi qui tu es, ce que tu veux véhiculer, comment tu veux le faire. On a un peu l'image de l'agent immobilier, tu sais, on en entend toujours, hein, l'agent immobilier un peu véreux, le gars qui arrive, qui a les dents, qui raye le parquet. Mais pour moi, c'est tellement un métier passion que je l'ai toujours vu comme une aide, en fait. J'apporte mon aide aux clients pour vendre leurs biens, pour trouver leurs pépites. Donc, ça a toujours été évident, évident pour moi, et je me suis vraiment éclatée dans cette direction.
Et tu as monté ton agence toi-même, tu n'es pas franchisé d'un réseau, c'est ton agence à toi.
Exactement. Ouais, Eric. En fait, j'ai tout monté de toutes pièces. Parce que je voulais pas en fait adhérer à un réseau, parce que je voulais un quelque chose qui m'était propre. J'avais hésité au départ à rentrer dans un réseau de mandataires. Il y a plein de réseaux formidables avec des gens formidables, hein, d'ailleurs. Mais je me suis beaucoup posé la question, et mon mari m'a aussi bien aidée là-dessus, à savoir ce que je voulais. Et comme je voulais créer mon identité, j'avais envie d'avoir mes codes couleurs. Enfin, ça passe par là, partout. Et du coup, naturellement, j'ai lancé l'agence indépendante. Donc, on est en début 2019. Un an après, mon mari m'a rejoint dans l'aventure parce que ça marchait tellement bien que j'étais sous l'eau. Donc, en quelques mois, ça a explosé. Et juste avant la Covid, mon mari a pu quitter sa boîte. Et donc, il m'a rejoint 2 semaines avant le premier confinement, tu vois. Donc, ça a été un nouveau challenge parce que là, tu te dis, on est deux à se lancer dans le grand bain, tu vois. Donc, c'est une aventure en couple aussi. Donc, hyper enrichissante. On s'est beaucoup connus aussi dans l'adversité parce que collaborer quand c'est ton mari, c'est aussi un autre challenge. Et franchement, ça a été à un moment où chacun a dû aussi trouver sa place, parce qu'en fait, mon mari n'est pas du tout à la base de ce milieu-là. Donc, pas facile de trouver sa place au sein de la boîte, mais en fait, on a assez rapidement équilibrer les rôles pour que lui, il a lui à la base, il vient du marketing digital, donc il a forcément une très très belle appétence dans tout ce qui est communication. Donc il a été très très fort au départ pour énormément travailler sur l'aspect digital et le volet vraiment réseaux sociaux, etc. Donc ça a été très puissant. Et puis assez rapidement, quand on a commencé à augmenter notre nombre de ventes, en fait il a fait du terrain avec moi. Donc c'était chouette. Donc on a continué comme ça et on a décidé, on s'entendait très très bien avec un agent immobilier de notre commune avec qui on faisait souvent des intercabinets, qui, elle, travaillait dans un réseau de mandataires. Et en fait, elle avait envie, elle ne s'y retrouvait plus dans dans ce gros réseau, parce que justement, elle se sentait un peu noyée et elle avait envie de quelque chose de plus intimiste. Donc, on a monté en fait une marque, donc une agence immobilière BIS, qui est du coup une filiale de Beaucoup Immobilier, qu'on a montée donc sur la même commune avec cette personne donc, qui s'appelle Laure. Et on a donc pareil remonté un logo, toute une ligne éditoriale, enfin plein plein de choses pour avancer dans cette direction. Et on a souhaité recruter des agents commerciaux indépendants. Ça a avancé depuis 2019 en gros, ça avance. Aujourd'hui, on a eu jusqu'à 9 collaborateurs, là on en a 7. Donc, malgré le contexte compliqué, c'est intéressant aussi de voir cette agence évoluer avec des belles personnes, avec vraiment un ADN aussi fort et puissant. Et du coup, nous, on maille la ville avec ces deux marques, en fait.
Tu le disais, ça a toujours été une passion. Déjà petite, lors des anniversaires, tu regardais les maisons, tout ça. Il y a un diplôme d'agent immobilier. Est-ce que ça suffit après pour monter ton agence toi-même? Il y a besoin d'autres compétences. Alors, oui, peut-être en gestion, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres cadres légaux à avoir avant pour passer d'agent immobilier simplement, je peux vendre des maisons, à je crée mon agence?
Alors en fait, pour monter une agence immobilière, tu dois demander une carte professionnelle. Et cette carte professionnelle, tu peux l'avoir en fonction de ton niveau d'études. Donc en l'occurrence, avec un BTS immobilier, tu peux l'avoir. Et avec un bac plus 3 dans beaucoup de domaines. Parce que tu vois, mon mari a un bac plus 5 en maths appliquées, donc autant te dire que bon, il n'y a pas vraiment de beaucoup de rapports avec l'immobilier, mais il pouvait être détenteur de la carte. Finalement, en fonction de ton diplôme, tu peux obtenir cette carte, sachant que cette carte, tu la demandes que quand tu montes une agence immobilière. Si tu es mandataire dans un réseau, tu travailles sous la carte pro du réseau. Juste quand tu es indépendante, tu dois avoir une carte, ce qu'on appelle une carte blanche, c'est une carte du collaborateur pour pouvoir être habilité à. Mais il n'y a pas d'autres éléments, on ne te demande pas, il n'y a pas des tests ou quelque chose, Eric, si c'est pour répondre à ta question. C'est uniquement cette carte pro qui fait que tu montes à ton agence, tu demandes ta carte professionnelle, donc ça passe par la CCI, donc il y a un petit laps de temps. Et ensuite, à partir du moment où tu as ta carte, là, tu es habilité à rentrer tes mandats et à avancer.
Tu disais, ton mari te rejoint 2 semaines avant le Covid. Moi, je suis plutôt du milieu du sport et je sais tout l'impact qu'a eu le Covid sur tout l'écosystème sportif français, mais même mondial. Comment vous l'avez vécu, vous Est-ce que ça a été une force, du coup, d'être en couple à ce moment-là et de se dire de ne pas être tout seul? Et puis, est-ce que d'autre côté, il y a eu un peu de stress de se dire, on a mis tous nos œufs dans le même panier et finalement, il y a ce Covid qui arrive comment ça s'est passé pour vous? Au contraire, est-ce que ça a été une explosion parce que les gens cherchaient des maisons et voulaient sortir des immeubles?
Alors, c'est intéressant cette question, Eric, parce que tu vois, en fonction de quand tu regardes le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a beaucoup de potes qui nous ont dit autour de nous, « Ah les gars, mais là, on vient d'être confinés, mais c'est la merde, David, il vient de quitter son job. » Et en fait, mon mari a répondu, « Mais finalement, heureusement, parce que j'ai pu avoir ma rupture conventionnelle. » Et peut-être qu'après tout ce Covid, etc., à l'époque, c'était au tout début, on ne savait pas trop comment ça allait avancer. Il a dit, mais au contraire, en fait, heureusement que j'ai eu cette rupture parce que peut-être qu'après, je ne l'aurais jamais eu. Donc, mon mari l'a vraiment vu comme une opportunité. Et la Covid, même si au début, bien évidemment, pendant le confinement, on est tous pareils, un tâton. Mais nous, ça a été un accélérateur, le Covid, pour nous. Surtout dans une agence immobilière dite digitale, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de bureau. Donc, en gros, on bossait de chez nous. Et donc, forcément, la présence du digital, bah, nous, on a tout explosé à ce moment-là parce que bah, tu sais bien que toutes les agences immobilières, comme tous les commerces, sont fermées. Et beaucoup d'agences autour de chez nous, en gros, ont fermé boutique et ont dit « bon, bah, on verra bien ce que ça donne ». Sauf que nous, bah, en fait, on a été très, très présents à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, garder les contacts téléphoniques. Enfin, donc, tous ceux qui avaient coupé le téléphone et qui avaient mis, en gros, bah, l'agence en stand-by pendant ce laps de temps, eh ben, nous, on a récupéré tous les contacts à ce moment-là. Donc, pour nous, ça a été un vrai accélérateur, même si clairement, pendant le confinement, on a bossé. Hein, donc, on n'a pas chillé. Mais ça a été un vrai, vrai tremplin pour nous parce qu'à ce moment-là, beaucoup de propriétaires qui avaient leurs biens en vente dans d'autres agences, ils s'inquiétaient, ils nous voyaient sur les réseaux parce qu'on faisait beaucoup de pubs sponsor, etc. à ce moment-là. Et du coup, ils se disaient, bon, bah, peut-être qu'ils vont me répondre. Eh bah, oui, on répondait. Donc, en fait, ils nous appelaient pour demander des questions sur leurs biens. Puis, en fait, bah, tu noues un contact, t'avances. Et sortie de Covid, j'ai rentré, c'était monstrueux, hein, sortie de Covid, parce que bien évidemment, on ne pouvait pas aller sur le terrain avant. Mais sortie de Covid, je crois que j'ai rentré 20 ou 25 mandats les 15 jours ou 3 semaines qui ont suivi. Donc, ça a été... et on a bossé non-stop jusqu'au mois d'août. Et pour nous, dans l'immobilier, pour le coup, ça a été un accélérateur aussi parce que bah, sortie de confinement, les gens avaient envie de changer de bien, se sont rendus compte à ce moment-là qu'ils n'en pouvaient plus de ne pas avoir de jardin. Les gens de Paris se sont étendus en banlieue. Nous, on est en proche banlieue, on est à 6 km de Paris. Donc, en fait, la COVID, pour le coup, et tout ce qui s'est passé après, a été un accélérateur, mais ça pour l'immobilier en général. Hein. Bon, maintenant, on a le revers de la médaille, hein, mais c'est comme ça et c'est parfaitement OK. Mais en tout cas, cette période-là, pour nous, ça a été un vrai, vrai tremplin. Ouais.
On a vu aussi pour le sport, hein, à partir du moment où on a pu sortir, il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah, tiens, je vais aller courir, je vais aller faire du vélo. Et les articles de sport, les magasins de sport ont des chiffres d'affaires exceptionnels. Justement, en parlant de sport, tu fais du sport. Toi, tu as fait du sport plus jeune. Est-ce qu'il y a un sport où tu t'es dit impliqué quand tu étais plus jeune ou à l'adolescence ou après qu'est-ce que tu aimes comme sport?
Alors, moi, j'ai fait plusieurs sports. Donc, j'ai fait de la natation que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un sport qui est assez doux. Et je trouve que c'est... en fait, j'oublie tout quand je suis dans l'eau. Donc, je trouve que c'est hyper apaisant. J'ai fait un peu de tennis. Je n'avais pas un gros niveau, mais je me suis toujours éclatée. Donc, j'ai pas je continue aujourd'hui, par contre, le sport. Et ça, j'en ai besoin dans mon équilibre entrepreneurial. Donc, je vais courir, je fais du fitness. Je fais des choses vraiment pour moi aussi, pour mon bien-être, parce que pour moi, ça fait partie de mon équilibre. Il y a juste quelque chose par rapport au sport, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée quand j'étais enfant. C'est que, en fait, ma maman m'a emmenée à plusieurs reprises voir du patinage artistique. Et même si je n'ai jamais fait de patinage artistique, mais bon, tu vois, je patine avec ma petite quand je fais la patinoire, mais comme tout à chacun, donc je fais rien d'extraordinaire, même si je pense que tu as plus d'appétence sur la glace, Eric, que moi. Le patinage artistique, ça a été, entre guillemets, une révélation pour moi, dans le sens où j'ai toujours trouvé que c'était un sport vraiment magnifique. Et que, notamment en couple, je trouvais que c'était vraiment beau et qu'il y avait une espèce d'alchimie. Quand les couples bossaient ensemble, j'avais toujours du stress, tu sais, quand il y avait des figures incroyables et que tu attendais de voir si l'athlète allait bien réceptionner. Enfin, tu vois, en fait, je vivais ce moment-là, mais comme si c'était moi, en fait. Et est-ce que ça m'a donné ce goût, en tout cas, du challenge, du... Tu vois, de la niaque, ces athlètes, la tête haute, tu vois, avec un vrai, vrai esprit, je trouve, sportif, tu vois, gracieux. C'est un sport quand même qui est hyper élégant, je trouve. La précision, tous ces éléments-là, en fait, m'ont énormément marqué petite. Et même si je n'ai jamais fait de patinage, bon, ma petite fait de la danse. Je trouve que c'est vraiment une discipline et j'ai vachement plaisir d'ailleurs à regarder et je vais toujours à des spectacles, hein, tu vois. Et je trouve que c'est un sport qui est incroyablement beau. Et d'ailleurs, je crois que le pape, je crois que c'était en 2019, justement disait là-dessus que c'était un sport vraiment très joyeux et très beau, et c'était un sport aussi inclusif qui permet vraiment de dépasser les barrières sociales et ouvert en fait à tous. Et je suis assez d'accord avec ça. Donc, je suis fervente défenseuse, on va dire, de ce sport que je trouve ultra beau. Je ne sais pas si toi, Eric, tu es adepte de ça, mais...
De la glace, oui. Alors, j'ai connu beaucoup de patineurs, hein, que ce soit Gwendal Pesa, Marina Anissina, qui ont été champions olympiques français en 2002, Philippe Candeloro, bien sûr.
Oui.
On était ensemble au jeu 92-98 avec Philippe. Et c'est vrai, est-ce que du coup, tu parles de cette notion de couple, si tu as parlé du patinage, mais surtout du couple, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'y retrouves un peu quand tu dis avec ton mari d'être en couple, et puis tu dis cette précision, ce challenge, il est plutôt sur le marketing et toi plutôt sur le développement de l'agence. En couple, c'est pareil, il y en a qui font des figures, quand tu parles du couple où il y en a un qui lance sa partenaire, qui doit la rattraper, tout ça, tu identifier un peu à cette manière de travailler et à cette danse qu'ils font sur la glace. Est-ce que c'est une danse immobilière que vous faites à deux avec ton mari?
Ouais, c'est un peu ça que je vois, et c'est vrai que le parallèle est très intéressant. En fait, finalement, tu dois non seulement bien évidemment bien te connaître, et ça, que ce soit au niveau du sport ou de l'entrepreneuriat, faut avoir bossé sur soi, et en sport, dans tous les cas, en dehors de bosser sur soi, bien évidemment, c'est de la répétition, hein. Mais il faut aussi être sûr de son partenaire. Et en fait, l'entrepreneuriat en couple, pour moi, c'est ça. Donc, chacun a son domaine de compétence, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et du coup, moi, je suis sûre de la valeur que mon mari va apporter, que ce soit au client et à tout, en fait. Et la réciproque est vraie. Et on a chacun vraiment notre zone de génie et on se respecte énormément là-dedans. Donc, effectivement... comme tu dis, je pense que dans les patineurs, quand ils dansent ensemble, forcément, ils sont sûrs l'un de l'autre, en fait. Donc, je trouve que le parallèle est intéressant, et que tu sais que ton associé ou ton partenaire de danse, tu as une confiance en lui effrénée, et que peu importe ce qui va se passer, ça va le faire, tu t'en veux pas, tu vois. Tu es vraiment dans ce côté, on forme un couple. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Et effectivement, ce parallèle-là est hyper intéressant. Ouais.
Les patineurs ont des médailles. Et vous, avec David, ton mari, en 2022, vous avez le prix de l'agence de l'année en Île-de-France. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. On a été récompensés en fait en décembre 2022. On a reçu un prix au salon effectivement de l'immobilier, pour récompenser les agences en fonction de comment ils travaillent, leurs avis clients. Donc, bien sûr, il y a le chiffre d'affaires, il y a la notoriété, mais il y avait aussi beaucoup les avis clients. Est-ce qu'on est innovant? Comment on travaille? Et ça, j'ai trouvé que c'était, pour nous, ça a été un grand moment, franchement, parce qu'en plus, on concourait face à des grosses boîtes, des agences qui ont 100, 150, 200 collaborateurs. Donc, nous, on se disait, on est deux, tu vois. Et ça a été hyper, hyper beau. Donc, il y avait plusieurs catégories et aussi sur les votes du public, tu vois. Donc, c'était chouette parce qu'il y avait aussi ce côté-là. Quelle image les autres, les clients et autres et toutes les personnes ont autour. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai reçu aussi un prix féminin pour les femmes dites au parcours inspirant, donc c'était hyper gratifiant aussi pour moi. Donc on a été hyper hyper touchés de ce beau moment. Ouais,
il faut dire ce qui est dans l'immobilier, globalement c'est plutôt un domaine masculin ou des femmes qui créent leur agence. T'es un peu, c'est ce que tu disais, tu es un peu une inspiration parce que t'es un peu précurseur dans le domaine.
Alors, en fait, on est très, très représentés dans la profession. Il y a beaucoup de femmes, je crois. Alors, je n'ai pas les dernières stats, mais je crois qu'on est à 65%, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on est à plus de 60%, je pense que ça dépend des années, mais on va dire jusqu'à 70%. Donc, c'est quand même très représenté. En revanche, dans les dirigeantes, là, la stat s'écroule. Il y a très peu de femmes dirigeantes, ou alors il y a des couples, mais à la base, où c'est le monsieur qui a le domaine d'expertise. Donc, c'est vrai que c'est assez masculin, finalement, Eric, dans les dirigeants. Donc, c'est vrai que moi, au tout début, d'ailleurs, moi, j'ai été coachée pour ça, hein, sur les débuts de mon parcours, parce que j'avais un sujet de légitimité. J'arrivais dans les rendez-vous, donc j'avais 30 ans, voilà. Je me sentais, tu sais, un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Il y avait pas mal de, donc, d'hommes, souvent plus âgés, qui en gros me disaient, mais c'est qui cette gamine, quoi? Donc, ça a été challengeant pour moi et je me suis fait coacher là-dessus, hein, vraiment au début. Et ça a été, je pense que ça a été une des meilleures, entre guillemets, formations et investissements que j'ai pu faire sur moi, de me faire coacher là-dessus. Parce que ça m'a permis, en fait, de lever toutes mes croyances et toutes mes barrières.
Tu disais, donc, vous avez maintenant une deuxième structure. Tu dis, aujourd'hui, vous avez 7 mandataires, des personnes qui bossent avec vous. Donc, ça veut dire qu'il y a du management dans ton quotidien. Tu as suivi quoi comme type de... Qu'est-ce que tu as développé? Comme un sportif va devoir développer des capacités physiques, intellectuelles, tactiques, techniques. Sur quoi tu t'es focalisé quand tu as créé ton entreprise? Sur quoi tu as mis le doigt? Sur quoi tu t'es dit, tiens, il faut que je développe ça?
Alors, moi, j'ai toujours aimé me remettre en question et faire des formations. Donc, on va dire que dans mon parcours, j'ai fait énormément de choses, beaucoup en développement personnel et je me suis énormément documentée là-dessus. Moi, depuis le mois de septembre, donc depuis quelques mois, donc septembre 2023, depuis quelques mois, j'ai choisi, dans le prolongement en fait de mon activité, parce que je me suis dit maintenant, c'est quoi la next step? Je me suis dirigée vers le coaching et la formation pour les conseillers immobiliers et les directeurs d'agence. Donc, je coach pour une boîte qui fait que ça. Et pour moi, c'était très important d'avoir un diplôme parce que tu sais, bah, des coachs, on en voit partout, hein. Tu peux être coach de vie, tu peux être coach alimentaire, tu peux être je sais pas quoi. Mais en fait, le coaching, c'est un vrai métier. Dans l'art du questionnement, dans comment tu peux amener une personne à dépasser ses croyances, ses peurs, comment tu veux, parce qu'il y a dans l'immobilier, même si je fais du coach business, clairement, il y a aussi beaucoup, beaucoup de mindset, de remise en question, parce que c'est soi avant tout et ce qu'on se raconte, comme on dit, comme histoire, tu vois. Et si tu n'as pas un mental de guerrier, ça va être compliqué d'aller performer sur le terrain. Donc, je me suis vraiment dit, bah, Anne, qu'est-ce que tu veux faire comme école et qu'est-ce que tu veux faire pour être une coach d'excellence? Donc, j'ai rejoint l'école de coaching de David Laroche qui s'appelle l'EDEC, qui est pour moi une des meilleures écoles de coaching. C'est un cursus sur 2 ans, donc c'est quand même assez costaud. Mais je suis très contente, ça allie à la fois tout ce que tu peux apprendre, donc tu as beaucoup de ressources et tu as aussi des trainings. Donc c'est chouette parce que bah, tu t'entraînes, donc assez rapidement, j'obtiens des transformations, tu vois, avec des coachés sur des déclics, surtout des coachings émotionnels. Et on sait que pour faire le parallèle avec le sport, très clairement, c'est comme tout, hein. Si tu te mets plein de barrières dans ta vie et que tu te répètes toute la journée que t'es con, ou que tu vas pas y arriver ou que t'es pas capable ou voilà, bah ça va être compliqué de faire quelque chose. Donc aussi par les coachings émotionnels que je travaille depuis quelques semaines et quelques mois maintenant, on arrive à avoir des vrais résultats et franchement c'est formidable. Enfin, je trouve que c'est un très très beau métier quand tu vois une personne qui arrive avec des énergies ultra basses sur les premiers coachings, qui est très down, qui est dans une posture de victime, ou tu vois vraiment une posture qui est très très négative tout bonnement, et que au fil de l'eau tu vois l'ascension, mais c'est un kiff parce que tu te dis c'est génial, tu vois, de voir comment les choses peuvent changer par rapport aussi à ce que tu peux mettre en place avec tes coachés. Donc c'est une belle ascension, je suis hyper contente de ça. Ouais,
moi j'ai connu ça aussi en tant qu'entraîneur, où tu prends quelqu'un à qui on dit, de toute façon, lui, il est nul, il ne fera jamais les JO. Et puis, à force de l'accompagner, tu ne fais pas sa place, mais tu l'accompagnes. Et puis, un jour, il se qualifie pour les JO ou alors il gagne des médailles. Et c'est vrai que même si ce n'est pas toi qui as la médaille, même si ce n'est pas toi qui fais les JO, le fait de voir l'autre s'épanouir et grandir, comme tu dis, c'est un kiff formidable. Et puis, comme moi, j'ai été à la fois athlète et coach. Toi, tu as été un peu aussi une athlète quand tu étais salarié. Aujourd'hui, tu es coach puisque tu as ta propre entreprise. Est-ce que, pour faire le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat, tu as des noms de sportifs ou sportives qui t'inspirent et aussi de coachs?
Oui, tout à fait, Eric. Alors, bon, je suis un peu une féministe, pas mal placée, je te rassure, mais c'est vrai que il y a plein de sportifs, je trouve, qui ont des parcours incroyables et qui sont ultra, vraiment, je dis mais bravo à eux sur un certain nombre de performances, de tout ce que tu veux. C'est vrai que la cause des femmes me touche particulièrement et tu vas comprendre par la suite que je vais te donner. Si je devais te donner une sportive, je te dirais, je pense que tu vas savoir de qui je vais parler, je te dirais Clarisse Abnegnenou. J'ai toujours du mal avec son nom, la judokate. Je trouve que cette femme, en tant que femme du coup, c'est une femme qui a bien évidemment été très titrée en judo, mais au-delà de ça, ce que j'aime chez elle, c'est ce qu'elle a pu mettre en place sur les différents combats, tu vois, contre le sexisme, les stéréotypes de genre, et sur les injustices en fait qui lui parlent. Et ça, je trouve que c'est beau, notamment la croyance le judo, c'est un sport de garçon. Cette personne, donc Clarisse, le fait qu'elle soit aussi ambassadrice, je ne sais pas si tu sais, mais elle est ambassadrice. Donc, elle a été ambassadrice pour la marque Lego en 2021 avec le projet Elle pour permettre aux jeunes filles de soumettre des idées pour améliorer vraiment le monde de demain. Je trouve que c'est incroyable et je pense que ça a inspiré plus d'une jeune fille. Le fait aussi qu'elle soit ambassadrice de la marque Réjane, donc les sous-vêtements menstruels, avec tout ce qu'il y a autour des règles et donc qui ne sont pas tabous dans ce milieu, et elle évoque assez facilement sur le kimono blanc et tout ce que ça a pu engendrer. Elle a vraiment fait bouger les lignes là-dessus. Ça me touche encore plus parce que moi, je souffre d'endométriose et c'est une maladie qui n'est pas évidente quand on est une femme. Et je me dis que quand tu es sportive ou entrepreneuse ou peu importe quoi d'ailleurs, mais quand tu bouges beaucoup, quand tu fais un métier où tu es beaucoup debout, où tu fais beaucoup de déplacements, bah voilà, je trouve que cette femme porte particulièrement ces couleurs-là. Et voilà, et je me dis, mais bravo à cette femme. J'aimerais un jour, ça fait partie de ma to-do list, mais j'aimerais vraiment rencontrer cette femme. Parce que je la trouve incroyable et je trouve qu'elle incarne tout ça, Eric.
Alors, elle est peut-être un petit peu prise avec l'événement qui arrive cet été à Paris dans quelques mois. Mais écoute,
tu crois?
J'espère en tout cas. Mais alors, côté palmarès sportif, donc double championne olympique, une autre médaille d'argent, 6 fois championne du monde de mémoire et puis 5 au championnat d'Europe. Donc là, il n'y a pas de discussion. C'est une athlète formidable. Et comme tu le dis... Elle a eu aussi pendant sa carrière un enfant, elle revient, elle regagne, elle a fait beaucoup pour cette cause-là. Alors oui, moi je suis un garçon, donc je ne sais pas ce que c'est que de faire des compétitions en ayant ses règles, de s'investir 4 ans, 8 ans dans une discipline et de se dire bah, peut-être le jour où j'ai les jeux, mes règles sont là, et puis est-ce que ça ne va pas me faire être moins performante, est-ce que ça ne va pas me gêner. Et c'est vrai qu'il faut que ça change, il faut que ce regard change, comme tu l'as dit, Il y a peut-être des filles qui se sont dit « j'arrête le judo parce que quand j'ai mes règles, il y a un kimono blanc et je n'ai pas envie que ça se voit et qu'on se fiche de moi. » Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand je demande à mes invités qui me citent un sportif ou une sportive qui ne se contentent pas de dire bah, « je te dis celui-là parce que c'est le meilleur sur le terrain, mais j'ai envie de qu'ils me parlent de ce qu'ils font en dehors du terrain, de ce qu'ils représentent pour la société en général parce que eh bien, le sport, comme d'autres domaines, hein, la chanson, les arts, le cinéma, ça peut être un vecteur sociétal qui peut faire bouger les choses. Et je pense que Clarisse était une formidable ambassadrice de la place que devrait avoir la femme dans la société en France et en général dans le monde. Et je suis très heureux que tu aies cité ce nom-là. En tout cas, ça me fait très plaisir.
Ah oui, non, mais c'était évident pour moi. Et vraiment, si elle m'écoute, mais voilà, ça fait partie de mes projets. Et comme j'aime bien aller au bout des choses, je sais que je la verrai, je ne sais pas quand. Même si je la verrai en juillet déjà, pas comme tout le monde. Pas physiquement, mais en tout cas voilà, j'espère un jour rencontrer cette femme parce que je trouve que c'est un véritable modèle pour nous toutes quoi, et vraiment bravo à elle. Et pour répondre à ta deuxième question
sur les coachs,
alors je ne suis pas spécialement foot parce que moi mon mari est plutôt rugby, Mais je pense à Didier Deschamps. Alors, c'est sûr, hein, c'est un coach assez incroyable pour toutes les victoires qu'il a pu mener. Mais je fais surtout le parallèle entre, je pense que c'est une personne qui met vraiment le focus sur le travail d'équipe avant le travail personnel. Et ça, pour moi, c'est en tant que manager aussi, je trouve que c'est hyper important et c'est une valeur pour moi qui est très forte. Et pour moi, chaque manager ou chaque coach au sein d'équipe ou autre, tu dois quelque part reconnaître la zone de génie un peu de chacun et, pour que tout le monde puisse collaborer et avancer. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment à souligner chez Didier Deschamps, parce que les réussites, il les doit aussi par cette intelligence-là, tu vois.
C'est un peu ce que tu prouves avec David, ton mari, puisque tu le disais, lui, il a plutôt la partie digital, marketing, c'était son domaine. Et toi, au début, tu étais plus dans le développement, même si je pense qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, il est aussi sur le terrain à vendre des biens. Mais c'est aussi cette intelligence-là de se dire, lui, je le prends, il est peut-être moins bon techniquement dans le cadre de Deschamps, mais je sais qu'on va vivre 2 mois ensemble. Et en termes d'atmosphère dans l'équipe, même si techniquement, il est moins bon, je sais que par ses savoir-être, il va apporter quelque chose au groupe. Et c'est ça. Et peut-être que toi, demain, tu vas choisir, je dis ça, je ne connais pas le marché de l'immobilier, mais peut-être un mandataire qui va vendre moins, mais d'une bonne façon par rapport à ce que tu veux être, ce que veut être ta société. Il va en vendre moins, il va peut-être avoir moins de chiffre d'affaires, mais d'une belle manière qui fait que sur le long terme, ça va être gagnant pour la société. C'est peut-être ça aussi, si on pourrait mettre ça dans l'immobilier, dans ce que tu veux mettre en place.
Tout à fait. Et le one-shot, tu vois, il y en a hein, des agents qui font une carrière sur un an ou deux en mode one-shot et ils y vont à fond et pourquoi pas, mais du coup, sans vraiment service client, sans vraiment, tu vois, avoir le goût de l'excellence, du suivi. Pourquoi pas, hein, encore une fois, mais pour moi, si on veut tenir sa boîte, c'est sur le long terme. Et tu vois, il y a peu d'agents immobiliers qui tiennent dans la durée avec des gros chiffres d'affaires. Et ça a été mon cas pendant 17 ans, hein, où j'ai fait des gros chiffres d'affaires, j'ai vraiment performé. Mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, je voulais couper et me diriger un petit peu vers autre chose parce que je sentais que j'arrivais au bout d'un cycle. Et je trouve que c'est important à un moment donné de se dire, OK, c'est quoi la suite et comment est-ce que je peux avancer vers ça, en fait.
Et sur toutes les qualités dont on a pu parler, à la fois dans le côté entrepreneurial ou sportif, est-ce que toi, aujourd'hui, il y a une qualité que tu considères comme étant une qualité qu'ont les sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que dans ton quotidien, soit de chef d'entreprise dans l'immobilier, de coach aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une que tu aimerais avoir un petit peu plus?
Alors, mon mari t'aurait répondu avant même moi. La patience, mon cher Eric. Je suis une fonceuse et je ne suis... Alors, j'apprends à le devenir. Maintenant, je suis beaucoup plus patiente, mais je n'étais pas du tout patiente. Moi, ça a toujours été le tout de suite. Donc, je l'ai appris et la vie m'a appris ça aussi. Et j'en suis très contente, même si je me suis pris des tartes, mais ça m'a énormément forgée. Donc, je te dirais la patience. Et il y a un truc, moi, que je trouve incroyable, c'est le côté répétition, en fait. Jusqu'à temps d'arriver à ce sujet-là, ce côté répétition, je le trouve incroyable, qui va avec la patience. Hein. Mais je suis admirative de ça, même si je me suis entraînée pour des pitchs, même si, voilà, forcément, tu as ce côté répétition. Mais plus sur le côté patience et... vraiment, je trouve que là-dessus, c'est très intéressant, la patience du sportif.
Pourtant, de l'extérieur, moi, quand je regarde l'immobilier, c'est quand même un univers de patience. Parce que ce soit quand tu achètes ou quand tu vends, entre les délais légaux, entre le moment où on doit choisir son bien ou le vendre, à combien, les négociations, c'est pas je suis lundi et vendredi, j'ai ma maison. Alors, si, ça doit arriver pour les personnes qui n'ont pas de problème d'argent, mais... Globalement, dans 98% des cas, c'est quand même une histoire de patience. Quand tu vois les émissions de télé qu'il y a où ils doivent visiter 4, 5 biens avant de trouver celui qui va bien, je négocie, oui, non, après je demande le prêt, après oui, c'est quand même de la patience ton univers, non ?
T'as raison, Eric. Il faut de la patience, il faut surtout beaucoup de résilience parce que c'est un métier où c'est l'ascenseur émotionnel. Tous les professionnels de l'IMO te le diront, mais concrètement, le client te dit le lundi j'achète, le mardi il te dit je n'achète plus, le mercredi il te dit bon bah j'achète si ma grand-mère est là, le jeudi machin, tu signes le compromis, il a pas son prêt, il se rétracte. Enfin, tu vois, en fait, sur tout ce parcours-là, c'est plus ça moi que j'ai envie de te dire, parce que une fois que t'es ok avec le mécanisme, tu l'accueilles en fait. De toute façon, tu peux pas aller plus vite que la musique. En revanche, cette résilience dans ton déroulé de vente, là, il faut bosser sur soi. Parce que tu vas avoir le mandat, tu vas récupérer ce bien-là, mais finalement, non, parce qu'il y a un petit coco qui est passé devant toi. Tu vois, c'est plus tout ce qu'il y a autour, des aléas, en fait, de l'achat immobilier ou de la vente immobilière, je dirais, plus que le côté patience. Et moi, ça m'a... Enfin, là-dessus, j'ai appris mais très rapidement, parce que de toute façon, je savais que sinon, j'aurais des cheveux blancs avant, bien, bien avant aujourd'hui. J'ai lâché prise, moi. J'ai dit, OK, en fait, je suis vraiment de la team accueil, en fait. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça et c'est parfaitement OK. Donc, je dirais plus ça, en fait, le côté résilient plutôt que patient.
Et du coup, avec ta résilience et ta patience, où est-ce que ça te mène, où est-ce que ça vous mène avec David dans les semaines, dans les mois qui viennent ? On vous a parlé de coaching, d'accompagnement. C'est quoi tes projets à l'horizon 2024 et peut-être 2025 ?
Alors moi, en fait, je rééquilibre aujourd'hui un peu plus les activités. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, le côté coaching, formation, je veux le développer plus. Donc, en présentiel, en distanciel, je voudrais faire de la conférence. Donc là, je vais commencer, je pense, gentiment à me diriger vers cette partie-là aussi sur les années à venir. David, lui, continue aussi la production terrain, le management des équipes aussi. On a un souhait de racheter une autre structure. Donc, il y aura certainement dans les années à venir ou dans les mois à venir l'ouverture d'un troisième point. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Eric ?
Ah ben, ça fait un programme chargé, mais surtout, d'après ce que j'ai vu dans cet épisode, un programme qui risque de te plaire, en fait.
Je crois aussi. Ouais, non. C'est vrai qu'une fois que je trouve que t'as mis un pied dedans, après, t'es tellement content de tes projets que t'es à fond. Et tu te dis, j'avance maintenant vers quoi ? Et c'est vrai que le coaching et la formation, je trouve que c'est une belle évolution, tu vois, et un beau prolongement de mon activité. Et transmettre, je trouve que c'est passionnant comme mon métier, qui est un métier passion. Je trouve que c'est hyper chouette.
J'ai suivi à peu près le même parcours que toi, ou tu suis à peu près le même que moi, puisque j'ai un peu plus d'âge que toi, parce que moi, c'est pareil, j'ai eu un métier passion qui était d'être sportif. Et puis après, je suis passé de l'autre côté de la barrière entraîneur et je dois t'avouer que j'ai presque plus kiffé le côté entraîneur, d'accompagner des personnes à développer leur capacité, ce que je fais aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, fonction que j'occupe. Et les deux sont complémentaires et je vois très bien dans quoi tu t'engages et je suis sûr que tu vas adorer. Et de toute façon, tu le laisses transparaître dans le ton de ta voix et donc j'ai adoré tout ce que tu as pu nous expliquer sur le marché de l'immobilier, ta manière de faire, ton mindset et comment tu gères cette carrière. C'était fantastique. Merci Anne pour ça.
Eh ben, merci à toi, Eric, et merci aussi de nous partager ça sur le fait que, a priori, j'aurai encore une deuxième partie de vie aussi stimulante que la première. Donc, je suis ravie de savoir que je vais, a priori, m'éclater encore dans cette direction. Donc, merci aussi pour ton partage.
Eh ben, écoute, on pourra le suivre, puisque comme d'habitude, je mettrai bien sûr tous les liens pour que les gens puissent te suivre, que ce soit sur LinkedIn ou alors le site de tes agences immobilières. Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite, après Anne, merci Anne, pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.
Merci à toi, Eric, et à bientôt.
À bientôt.